L'évangile que nous avons entendu aujourd'hui se termine par « Nombreux sont les appelés, mais peu nombreux sont les élus. » Ça nous paraît mystérieux dans notre logique. À nous, on a l'impression que Dieu en appellerait beaucoup, mais qu'il n'en recevrait que quelques-uns, que quelques élus. Ce n'est pas la signification de l'évangile. La signification de l'évangile, c'est « Nombreux sont les appelés, mais peu nombreux sont ceux qui répondent. » Le ton de ceci, d'ailleurs, est donné par le début, par l'ensemble de ce passage de l'évangile, où le maître de maison a appelé des invités qui tous se récusent pour une raison ou pour une autre, et qui finalement ne viennent pas. Alors que parmi tous les appelés, peu ont été élus, peu ont répondu. Et prenons cet évangile-là très très sérieusement. Qu'on n'entende pas, qu'on s'entende pas dire ce que Saint Jean écrit dans le début, dans les premiers chapitres de son évangile. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ceci est une catastrophe. La lumière brille et on passe à côté de la lumière, on ne regarde pas la lumière. C'est tragique. Vous savez bien que notre vie n'est pas exclusivement sur ce qu'on appelle la terre, ce n'est pas uniquement notre vie biologique. Nous ne sommes pas en vie simplement pour 50, 100 ou 115 ans. Nous avons une vie éternelle. Et si on ne prépare pas cette vie éternelle, nous serons à côté de la vie. Nous vivrons, mais nous vivrons pour notre malheur. Donc, il faut répondre à l'invitation du Seigneur. Il est venu parmi nous. C'est ce qu'on va fêter dans 2 semaines. Il est venu parmi nous et il n'attend qu'une chose, c'est d'avoir une place pour être dans notre cœur. Vous pouvez remarquer dans cet évangile que tous ceux qui se sont récusés, tous les invités qui se sont récusés, l'ont fait pour des raisons qui ne sont pas mauvaises. Il y en a un qui vient de se marier, normal qu'il soit avec sa femme. Il y en a un qui vient de s'acheter un cheval, il faut bien qu'il ait laissé son cheval. Il y en a un qui s'est appelé, etc. C'est des choses normales, mais il faut savoir où est notre priorité. Notre priorité, c'est pour les choses de la terre ou c'est pour notre vie éternelle? Notre priorité, c'est pour les quelques années, même si c'est 100 ans. Si c'est pour les 100 ans qu'on doit passer sur terre, remarquez que ça n'arrive pas à tout le monde, en plus. Est-ce qu'on est là que pour ce temps-là? Quand on va se retrouver sur notre lit de mort, avec l'appel de Dieu, ah ben j'ai pas eu le temps de m'occuper de toi sur terre, alors c'est sérieux ça, c'est sérieux. Le salut, c'est pas simplement lutter contre les péchés, contre les passions. Le salut, si Dieu est amour, c'est partager l'amour de Dieu, c'est être avec lui, c'est le côtoyer. C'est le recevoir quand il vient. Et ceci à tous les niveaux. Bien sûr, il vient sous la forme du pain et du vin se donner à nous dans l'Eucharistie, à la liturgie. La chose élémentaire, c'est de venir à sa rencontre en liturgie, puisque lui s'abaisse, il incline les cieux et descend vers nous. La moindre des choses, c'est de nous élever un peu sur la pointe des pieds pour au moins le recevoir à ce moment-là. Mais c'est vrai aussi tout au long de l'orientation de notre vie. Pourquoi on travaille? On travaille pour se construire un château, on travaille pour se payer une retraite moins désagréable que si on n'avait rien. On travaille, on vit pour avoir une belle carrière, On vit pour se payer des loisirs, passer un temps agréable de loisirs, c'est-à-dire utiliser son temps pour son plaisir personnel. Si, où on vit pour Dieu, quel est le premier but? Tout ça, on peut le faire en présence de Dieu, mais il faut le faire encore en présence de Dieu. Sinon, il n'y a pas de salut, tout simplement. J'emploie une expression que certains se plaisent à me rappeler de temps en temps, qui n'est pas tout à fait, qui en rigueur de terme n'est pas tout à fait juste. Et pourtant, je maintiens cette expression. C'est-à-dire que quand je dis que ce ne sont pas nos péchés qui nous séparent de Dieu, ou que nos péchés peuvent ne pas nous séparer de Dieu. Je ne vais pas décrire les péchés que vous pouvez faire ou que moi je fais. On en fait tous, plus ou moins moralement graves. Mais tous ces péchés-là, c'est quoi? C'est des marques de notre égoïsme, de notre retournement, enfermement sur nous-mêmes. Mais ça n'empêche pas d'être en présence de Dieu. Il n'empêche pas d'être en présence de Dieu. Et ça ne nous empêche pas de nous repentir, de nous tourner vers Dieu, de le supplier, de lui demander pardon, de lui dire que malgré tout, on l'aime quand même. Mais ce qui nous sépare de Dieu, c'est l'oubli de Dieu, l'inattention à Dieu. Passer sa vie pour autre chose que la recherche de Dieu. Il est normal de veiller, d'avoir soin des membres de sa famille. Il est normal de passer du temps à nourrir. Il est normal de prendre des vacances. Il est normal de se détendre. Tout ça, c'est une vie normale, mais orientée, illuminée par la présence de Dieu. Qui est premier dans notre vie? Si Dieu n'est pas premier, il n'y a pas de salut. C'est pas qu'on est puni par Dieu, c'est que nous-mêmes on passe à côté du salut, à côté de la lumière. On ne prend pas assez conscience de ça. Souvent, on pense que notre vie religieuse est un plus dans notre vie. Ah ben moi je suis croyant, en plus d'être pratiquant du monde. J'ai un plus que les autres, je me raccroche à un au-delà. Les païens peuvent en faire autant. Le salut, c'est une communion avec, en Christ, avec tous les hommes, mais en Christ. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une vie amicale, sociale, bienveillante, aimante, généreuse avec les autres. Il faut encore que cette relation avec les autres soit en Christ. Les autres peuvent ne pas la connaître, peuvent ne pas le connaître, le Christ. Mais nous, c'est l'amour du Christ que l'on. Ça, c'est le salut. Le salut n'est pas une récompense qui viendra couronner notre vie, si elle était à peu près bonne. C'est un amour, c'est vite, c'est vivant. Il faut recevoir cet amour-là, il faut le donner. Donc, vous avez la même chose dans notre prière personnelle. Dans notre prière personnelle, les parasites, les idées, les pensées parasites, les distractions ne sont pas un empêchement à la prière. L'empêchement à la prière, c'est le choix délibéré de ne pas faire attention à Dieu. Tiens, j'ai une demi-heure de prière là, et je vais en profiter pour penser à comment je vais je vais tromper le fisc dans mes déclarations fiscales. Il y a d'autres moments pour penser comment faire pour tromper le fisc. Si on arrive à tromper. Mais les pensées qui viennent pendant la prière, les pensées qu'on ne cherche à chasser et qu'on n'arrive pas à chasser, ça, c'est pas un empêchement. Parce que la prière, c'est une orientation, un effort, une volonté de se consacrer à Dieu. Le cerveau, lui, il a son film. Il a son cinéma. Et vous ne pouvez pas empêcher ce cinéma-là de passer. Vous pouvez couper les raisons du cinéma. Si votre passion, c'est la boisson, vous risquez fort de penser pendant votre prière à la manière de fabriquer un alambic pour pouvoir ne pas payer les bouteilles d'alcool à l'épicerie. Et si vous voulez lutter pour avoir une prière pure, non seulement il faut couper l'alambic, mais il faut couper votre boisson. De manière à ne pas avoir cette tentation-là. C'est un exemple extrapolé, évidemment, pour des choses plus plausibles. Mais en soi, que l'idée de l'alambic vous vienne pendant votre prière, ça, c'est pas, ça n'empêche pas d'être avec Dieu. C'est à partir du moment où vous dites, ah ben oui, tiens, finalement, dans la journée, je n'avais pas pensé à ça, mais là, pendant que j'ai un petit moment, effectivement, si je mettais mon serpentin de telle manière, ça sera quand même plus efficace. Là, vous vous coupez de Dieu. C'est un peu la même chose pour la 16, pour le jeûne ascétique. On jeûne pourquoi? On jeûne parce que l'Église nous demande de jeûner pendant les 40 jours qui précèdent Pâques ou qui précèdent Noël. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ou je jeûne pour offrir quelque chose à Dieu? C'est autre chose. Je jeûne pour devenir quelqu'un de bien, pour être un bon chrétien, un bon orthodoxe. Ça, c'est le jeûne ne sert à rien. J'oublie Dieu, je passe à côté de la lumière. La lumière brille, mais je ne la reçois pas. Par contre, parce que je jeûne, ça m'amène à penser à Dieu, à consacrer ma vie à Dieu. Il m'arrive un malheur dans ma vie, la perte d'un être cher, ou quelques catastrophes que ce soit. Si j'essaie de lutter psychologiquement pour surmonter la difficulté, d'une manière purement humaine. Et alors là, c'est bien malheureux, mais il faut que je m'habitue. Ça ne sert à rien, c'est encore passer à côté de la lumière. C'est passer à côté du festin auquel on est invité. Dans un cas pareil, il faut orienter notre cœur vers Dieu. Dire, ah, puisque ça arrive, j'offre ça à Dieu. Et Seigneur, prends ma peine. Que ta volonté soit faite. Tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu permets est béni. Dépassons-nous comme ça. Là, on est parmi les élus. On entre dans le festin qui nous est promis. Il en va de même, évidemment, pour la participation à la liturgie et aux offices, autant que faire se peut. N'écoutez pas trop les moines, ils vous diront... Je sais de quoi je parle. Ils vous diront, l'idéal, c'est que vous veniez à tous les offices liturgiques. À l'office de minuit, à l'orthrose. Et ça, on sait que c'est pas possible. Concrètement, c'est pas possible. Donc, c'est pas un idéal. Mais je dis par ça, écoutez les moines, parce que dans ce sens que plus on prie, plus on a faim, plus on a faim du festin, et plus on mettra nos excuses de côté et on viendra se rapprocher de Dieu, se raccrocher à lui. Mais au moins, ayons la liturgie, si c'est possible plusieurs fois par semaine, si c'est possible que le dimanche, au moins le dimanche. Si on est loin et que c'est possible qu'une fois tous les 15 jours, une fois tous les 15 jours, si c'est qu'une fois tous les mois, une fois tous les mois. Mais mettons en avant la recherche de Dieu. Il faut que ce soit premier dans nos vies. Je ne vous dis pas ça par intérêt personnel, ma paye elle est la même, moi. Mais c'est le sens même de. C'est le sens même de la vie chrétienne. Les uns et les autres, je parle pour ceux qui se convertissent, quand on a découvert l'orthodoxie, c'était un émerveillement. La vie avait trouvé un sens, il y avait de recherche de Dieu, Dieu était présent. Et avec les années, la tentation est de prendre ça comme une routine. Maintenant, on a acquis ce qu'on voulait. Maintenant, on est devenu orthodoxe. Alors, on a notre petit train de vie, notre service minimum, qui demande un effort déjà. Enfin, c'est quand même le service minimum. Mais ça, c'est pas le salut. On devient à ce moment-là, on devient comme les pharisiens. C'est vraiment notre vie qu'il faut consacrer à Dieu. Alors je vous félicite, contrairement à ce que j'annonçais au départ, je vous félicite plutôt d'être présent, hein, mais cultiver cette présence. On s'achemine vers des jours de plus en plus difficiles. Si on ne tient pas bon aujourd'hui, si on ne s'accroche pas aujourd'hui au sacrement et à la prière et à la présence de Dieu, quand la vague sera plus grande encore, on abandonnera tout. Parce que oh, c'est difficile. Ce sera pas, j'ai un cheval ou des bœufs. J'ai des bœufs à sayer, une femme à accompagner. Je ne me rappelle plus quels sont les exemples dans l'évangile, mais ce ne sera pas ces excuses-là. C'est tellement loin, puis il faut. Les horaires sont pas commodes, on se trouvera des excuses. Et ne nous leurrons pas, le temps qu'on passe théoriquement à la liturgie, c'est-à-dire une heure et demie le dimanche, si encore on le remplaçait par une heure et demie de prière personnelle ou familiale, ce serait encore un moindre mal. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas le cas. On en profite pour faire une lessive de plus, pour aller arracher les mauvaises herbes dans le jardin ou de se baquer dans la piscine, surtout aujourd'hui. Je pense que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est ceux qui sont partis à la piscine. Mais je vous le dis avec humour, mais c'est vital, c'est tragique au sens le plus noble du terme. Le Seigneur vient et on passe à côté de lui. Et c'est ça la signification de la fête d'aujourd'hui, la fête des saints ancêtres. Parmi tout le peuple, parmi les hommes, Dieu avait choisi de se constituer un peuple. Le peuple, ce qu'on appelle le peuple élu, qu'il avait pris parmi les Hébreux. Il n'a pas voulu choisir un homme tout seul. Il a choisi un peuple. Pourquoi un peuple? Parce qu'un peuple, c'est une communion de personnes. Et ce n'est pas la justification d'un seul. Parmi ceux-là, quelques-uns ont répondu présents. Ce qui demandait un acte de foi extraordinaire. Le Seigneur n'était pas encore venu et il leur était demandé de croire en celui qui viendrait à l'avenir, 1000 ou 2000 ans plus tard. Et pourtant, ils ont cru. Et ils ont donné leur vie à Dieu. C'est ceux qui sont représentés par ceux qu'on nomme aujourd'hui comme ancêtres. Les autres, même dans le peuple élu, se sont occupés de broutilles, d'obligations légales, des choses à faire ou ne pas faire, des choses mesquines. Et occupés à ces choses mesquines, ils ont oublié qui était auprès d'eux, qui ils devaient attendre seuls. Les pauvres, selon Dieu, comme le vieillard Siméon, comme Joseph, époux de la mère de Dieu, la mère de Dieu évidemment par excellence, le vieillard Siméon, d'autres, Saint Jean-Baptiste, ses parents évidemment, d'autres, attendaient comme ça activement le Seigneur. Ceux-là ont été élus. Les autres suivaient leurs obligations légales. Mais n'attendaient pas le Christ, n'attendaient pas le Messie, ou ils attendaient un autre Messie. Le Messie tel qu'il était décrit dans l'Ancien Testament paraissait sous la forme d'un roi, puissant, un nouveau Salomon en quelque sorte, quelqu'un de fort, puissant, glorieux. Ça, c'était symbolique. C'est une question littéraire. L'Esprit Saint se servait des symboles pour faire comprendre aux hommes qui ils devaient attendre. Mais au fur et à mesure où on a avancé dans l'histoire de ce peuple, petit à petit, les sages, les pauvres, les vrais contemplatifs qui donnaient leur vie pour celui qui allait venir, avait conscience que petit à petit avait conscience que celui qu'on présentait si grand aurait bien cette grandeur, cette noblesse, cette puissance, mais sous une autre forme qu'une forme purement matérielle, purement humaine. C'est comme ça que le vieillard Siméon, à la fin de sa vie, a pu reconnaître à travers un enfant, un bébé, avec des gens tout simples qui venaient parmi des milliers d'autres, chaque jour au temple, il a été capable de déceler que c'était lui le Messie. Parce qu'il l'attendait, parce qu'il vivait déjà avec lui. Et les autres, pas tous les autres, mais ceux qui ne sont pas parmi ses ancêtres, sont passés complètement à côté. Et nous qui avons déjà eu la révélation, comme le disait l'Épître, quand le Seigneur se sera manifesté, vous serez manifesté avec lui. Nous qui venons après, non seulement après la présence physique et visible du Christ sur terre, mais qui venons après 2000 ans de témoignages d'ancêtres, si je puis dire, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu, de la vie de Dieu, de la vie avec Dieu, de la gloire qu'il y a à être à côté de ce Dieu humble. Quelle chance nous avons, quelle plus grande facilité nous avons, non seulement de croire en lui, mais de vivre avec lui. Tant d'autres avant nous ont été nos ancêtres et ont vécu de la gloire de Dieu, ont vécu de l'amour de Dieu, ont donné leur vie, ont choisi Dieu. Nous, il n'y a qu'à suivre leurs pas. C'est ce que nous lisons quand nous avons des lectures spirituelles sur la vie des pères du désert, la vie des livres ascétiques, etc. Je ne parle pas d'ascèse extraordinaire. Et je parle de l'ascèse des lectures ascétiques que chaque chrétien est en mesure de faire, quel que soit son éveil intellectuel, son avancement intellectuel, mais tous, on a quelque chose à... Il faut fouiner dans les lectures qui nous sont transmises des saints, même si c'est des bandes dessinées, je ne me rappelle plus de la collection, où il y a les vies des saints. Même ça, pour un certain âge. C'est la fête d'Odile aujourd'hui, mais lui offrait pas une bande dessinée comme ça pour son avancement spirituel. Elle peut avoir quelque chose sans image, elle arrivera à comprendre. Peut-être.
Il y a beaucoup de bandes dessinées.
Mais il faut fouiner, il faut chercher Dieu. Le mot mot d'ordre, si je puis dire, c'est faire attention à Dieu. Où est-il? Comment se manifeste-t-il? Comment le trouver? Où le trouver? Il faut que Dieu soit premier dans nos vies. Quand dans notre Père, le Seigneur nous dit « Tout ce que vous demandez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. » Et quand à la suite de ça, nous disons « Que ta volonté soit faite. » Ne nous soucions donc pas des choses matérielles. Il faut les gérer. Je ne dis pas de vivre d'une manière éthérée. Il faut gérer les choses, il faut gérer sa vie. Mais l'un n'est pas l'essentiel, donc c'est normal de choisir une profession plutôt qu'une autre. C'est pas ça qui est interdit. Mais même dans le choix de notre profession, nous ne vivons pas pour notre profession. Cette profession est un moyen de gagner notre vie et de le faire partager ceux qui sont à notre charge. Sa femme, ses enfants, ses voisins, ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est normal de gérer ça. Mais au-delà de ça, ou à travers, plus important encore, c'est la rencontre avec Dieu. S'il n'y a pas une rencontre avec Dieu aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. Je veux dire, s'il n'y a pas une rencontre avec Dieu pendant notre vie terrestre, il n'y aura pas de rencontre avec Dieu dans ce qu'on appelle le paradis. Dans les offices liturgiques monastiques s'appellent des offices, c'est-à-dire des devoirs, c'est-à-dire comment on peut définir office, un travail fait au nom des autres, au nom du monde. Mais tout chrétien a un office. Tout chrétien est prêtre. Pas prêtre avec un ministère eucharistique, mais tout prêtre, tout homme est un lien entre le monde et Dieu. Tout homme est revêtu du sacerdoce, c'est-à-dire tout homme fait cette échelle entre le monde et les gens du monde et Dieu et le royaume des cieux. C'est pas un choix personnel, c'est pas une vocation que le sang donne, c'est pas pour se faire plaisir, c'est dans la nature même de notre être. Naturellement, parce que Dieu nous a créés comme ça, nous sommes les prêtres de ce monde. Notre office, c'est donc de rendre grâce à Dieu, de nous orienter à Dieu, d'appeler Dieu, d'être avec Dieu, de vivre Dieu. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, même nos péchés, nos mensonges, notre hypocrisie, tout ce qui est réellement des péchés et qui ne sont pas bons, évidemment, toutes ces choses-là ne nous empêchent pas de nous tourner vers Dieu. La seule chose qui nous empêche, c'est l'oubli de Dieu, l'abandon de Dieu, le désintérêt de Dieu. Dieu se présente et je ne viens pas au-devant de lui. Et après, mes fautes, mes péchés, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui les porte. C'est le Christ qui les porte. Et lui me donne les moyens. Il ne me donne pas les moyens. Et lui me peu à peu aplanit le chemin pour que je marche. Et aplanit mes fautes. Guérit mes passions, peu à peu, quand il le veut. Mais la nécessité, c'est d'être avec lui, de l'attendre. On a l'épreuve de la maladie tout de suite, qu'il faut aussi, qui est réel, mais qu'il faut aussi relativiser par rapport à ce qu'on entend. Mais il y a cette épreuve-là. Si on veut sortir de cette épreuve-là, c'est une question de foi. Pourquoi aussi ces épidémies se développent autant, c'est qu'on veut prendre des moyens purement humains, médicaux, si vous voulez. On ne prend pas les mesures spirituelles correspondantes. C'est le diable qui est derrière. Et la lutte contre la maladie, c'est la lutte contre le diable. Donc c'est par notre conversion. C'est en recevant, en venant, en acceptant l'invitation au festin, c'est en étant engrangé autour de la table qui nous nourrit, à la table eucharistique, c'est de cette manière-là qu'on peut lutter contre ce mal dans le monde et bien d'autres maux. On peut toujours inventer tous les vaccins, toutes les piqûres, tous les traitements possibles et imaginables pour guérir telle ou telle maladie. S'il n'y a pas un retour vers Dieu, de toute manière, on va mourir. C'est-à-dire, on va en mourir. De toute manière, le mal, la maladie va gagner du terrain. Ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous qui n'allons pas chercher auprès du véritable médecin, le médecin des âmes, qui n'allons pas chercher notre nourriture. Quand vous avez un cancer, vous allez chez le pharmacien pour prendre les médicaments. Quand vous y voyez mal parce que vous avez un cataracte, vous allez vous faire opérer. Quand on a des maladies comme ça, on va chez le médecin le plus spécialiste. Et le plus spécialiste, il est là-haut. Et ce n'est pas qu'une image. Je vous le dis avec un peu d'humour. Mais ôtez l'humour, la réalité, elle est là. Et ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une obligation que met l'Église. C'est une réalité vivante.